avec les Fralib. La victoire de la générosité et de la fraternité. Deuxième partie. ...336 jours de lutte des Fralib ont abouti à une belle et grande victoire. Les salariés de l'usine de conditionnement de thé et d'infusion de Gemenos sont venus à bout d'Unilever, quatrième multinationale de l'agroalimentaire au monde. Le 4 juillet 2014, l'usine était en fête pour le lancement de la nouvelle société coopérative ouvrière de production, Scopti. LCI, le 28 mai 2014, au lendemain de l'annonce de la victoire des Fralib.
1336 jours depuis la première annonce de la fermeture de leur usine historique de Gemenos dans les Bouches-du-Rhône. Historique parce que la marque L'Éléphant avait été fondée à Marseille en 1896. Plus assez rentable avait jugé la marque Unilever, propriétaire des Lipton. Délocalisation donc programmée en Pologne il y a plus de 3 ans et demi. Et ce qu'on peut retenir, eh bien, ce matin, du combat des salariés de Fralib, eh bien, c'est que ces 182 salariés au départ ont réussi à faire plier une multinationale américaine qui a regardé très longtemps avec mépris ses ouvriers français. Il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu de dialogue du tout pendant 3 ans. Les Fralib ont dû aller en justice. Ils ont réussi à faire annuler 3 plans de sauvegarde de l'emploi successifs. Et pendant qu'Arnaud Montebourg, en mai 2012, fraîchement ministre, venait leur rendre visite sans que le dossier n'avance d'un pouce, eh bien, les ouvriers allaient occuper leur usine pendant jour et nuit pour que les machines ne soient pas déménagées. Très belle lutte ouvrière. La même année, en 2012, écoutez ce que dit la porte-parole du groupe Unilever à une équipe de TF1. Elle croit alors que le combat des salariés est perdu d'avance.
Aujourd'hui, la page, elle est tournée. Il faut donner la priorité à la revitalisation dans le bassin d'emploi et au reclassement des salariés. 91% des salariés ont en congé de reclassement ont aujourd'hui une solution qui leur convient.
Et la solution qui leur convient, eh bien, ce sont ces 20 millions d'euros obtenus hier par ces mêmes salariés pour redémarrer leur activité sous la forme d'une SCOP, une coopérative ouvrière.
On va entendre Gérard Cazorla, délégué CGT de Fralib, puis Gérard Afagar, délégué CGC de Fralib, à l'occasion d'une prise de parole publique lors de la grande fête de victoire des Fralibiens et Fralibiennes.
Chers et chers camarades, merci d'être venus si nombreux fêter avec nous ce moment de victoire du monde du travail contre le monde du capital. 1336 jours d'une lutte juste et légitime, refusant la fatalité de la fermeture de notre usine qu'Unilever avait programmée depuis des années dans son plan de croissance de ses profits. Cette lutte était inégale, mais nous l'avons menée et nous l'avons gagnée. Malgré leurs énormes moyens financiers, juridiques et politiques, ils n'avaient certainement pas mesuré une telle résistance. 76 travailleuses et travailleurs, irréductibles, dignes et incorruptibles, ont mené une véritable lutte de classe. Et cette fois, c'est notre classe qui l'a emportée. Nous pouvons être fiers de la lutte collective que nous avons menée ensemble. Nous sommes des travailleuses et des travailleurs debout et dignes, avec la volonté de construire un monde meilleur, sur d'autres bases que cette société capitaliste que l'on nous impose. Cela est possible, il est inscrit sur le t-shirt des Fralib, un monde de fraternité, de liberté et de solidarité.
Merci. Bravo.
Maintenant, c'est avec grand plaisir que je laisse la parole à Gérard Afagar, délégué CGC de Fralib.
On a entendu les qualificatifs de victoire, grande victoire. Mais les victoires comme les défaites, je pense qu'il faut les analyser. C'est d'abord, à mon avis, la victoire des 76 salariés, ou presque, qui pendant 1336 jours ont tenu le choc. Et croyez-moi, ce n'est pas si facile que ça. Il faut résister à toutes les pressions. Les pressions de votre entourage, qui ne partage pas forcément vos idées, aux pressions de la famille, qui n'est pas au sein de la lutte et qui, à juste titre, se sent un peu délaissée. Et puis la pression que vous mettez vous-même, tout seul, quand vous retrouvez tout seul. Ai-je pris la bonne décision ? Aujourd'hui, vous avez la réponse, vous pouvez être fier de vous. Je dois dire que si la CGC ne m'a jamais fait de commentaires sur mes prises de position en tant que délégué syndical, il m'est arrivé de me sentir parfois un peu abandonné. Heureusement, je me suis trouvé famille d'accueil avec la CGT FNAF. Partout, j'ai reçu un accueil que je ne suis pas prêt d'oublier. Merci à tous ceux qui travaillent au sein de ces structures. À l'avenir, je serai toujours heureux de partager de vrais moments de fraternité avec vous. Solidarité, ce n'est pas un vain mot pour vous. Vous avez fait la démonstration. Les politiques nous ont accompagnés. Des artistes ont chanté, ont joué pour nous. Et puis, il ne faut pas oublier tous les anonymes qui nous ont envoyé des petits messages venant de très loin et qui se sont souvent montrés très généreux. Maintenant, j'aimerais passer quelques messages personnels. Le premier sera pour M. Muselier, pour ceux qui connaissent, médecin urgentiste et député européen, qui avait comparé les salariés de Fralib aux patients arrivant aux urgences. Il a déclaré à peu près ceci, aux urgences, il y a ceux que l'on peut sauver, puis il y a les autres. Évidemment, pour lui, les salariés de Fralib étaient mourants et déjà condamnés. Curieuse comparaison, M. Muselier. La prochaine fois qu'on vous demandera avant de vous exprimer à propos des salariés qui défendent leur emploi, s'il vous plaît, fermez votre bouche. Le deuxième sera pour M. Montebourg, qui à deux reprises a déclaré aux élus « Vous avez refusé le repreneur qu'on en avait trouvé, maintenant ne pouvons plus rien pour vous et vous devrez en répondre devant les salariés que vous embarquez dans cette galère. » Entre parenthèses, le repreneur, c'était les chips aussi belles. Quand le maire Gémenos il a pris ça, il a frôlé l'infarctus. Hein. Monsieur Montebourg, vous avez fait deux erreurs. D'abord, on ne règle pas un conflit social avec un repreneur bidon. Et puis chez nous, monsieur Montebourg, les élus n'ont jamais eu d'opposition politique. Nous ne sommes pas chez Arcelor. Les élus Fralibur avaient un seul objectif, préserver leur emploi. Aujourd'hui, c'est fait, ils sont devant les salariés et ils n'ont rien à se reprocher, bien au contraire. Le troisième message sera pour M. Chauvin, président de l'UPE 13, et à qui j'associe M. Gattaz, président du MEDEF, pour qui notre accord avec une EVR est un véritable scandale. Si notre accord suscite la colère des patrons, cela signifie tout simplement que nous sommes sur la bonne voie, sur le bon chemin. Le quatrième message, ouais, c'est pas très méchant, mais il s'adresse à nos détracteurs. Vous avez tous vu, rencontré, ce sont ceux que vous voyez dans la rue, qui vous demandent de vos nouvelles. Et puis Fralib, comment ça va? Ben ça va pas mal, doucement. Ouais, mais bon, c'est bien ce que vous faites, mais à la fin, vous perdrez quand même. Vous allez tous rencontrer, c'est vrai. Alors, moi, je voudrais juste leur dire, modifiez un petit peu la fin de votre propos. Ça va être très dur. Mais vous pouvez y arriver, Fralib, ils y sont arrivés. Et puis, il y a ceux que je respecte, évidemment, qui, le soir à 20h, regardent Pujadas, leur annoncer encore 1200 emplois, au nord, à l'est, qui disparaissent, et ils s'insurgent. C'est bien, mais c'est pas très efficace. Alors, encore une fois, venez avec nous, dans les défilés, partout où votre présence pourra nous aider. Vous rencontrez pas des voyous. Les voyous, on sait où ils sont, hein. Ils sont mis en examen plusieurs fois, ils font des fausses factures, ils ont des comptes dissimulés en Suisse, il y en a même qui suppriment leur belle-mère, alors vous voyez. Enfin, le dernier message, ce sera pour les salariés qui ont choisi de poursuivre le voyage à bord de ce bateau qui a traversé de fortes tempêtes mais qui est arrivé à bon port. Il est arrivé à bon port grâce aux 76 salariés, ou presque, qui n'ont pas déserté, mais aussi grâce à Gérard et Olivier qui ont amené ce bateau à bon port demain de maître. Depuis que je suis délégué syndical, je n'ai eu aucune formation. Ma formation, elle a eu lieu sur le tas, ici, avec eux. Ils ont toujours répondu à mes questions, ils m'ont toujours donné de bons conseils, sans jamais m'imposer leurs idées. Et ça, à titre personnel, je pense qu'il y a longtemps que je n'avais pas rencontré des gens avec une telle honnêteté, une telle sincérité, une telle loyauté. Pour ceux qui vont continuer dans l'ASCOP, le bateau ne fait qu'une escale et ils vont bientôt repartir vers affronter d'autres tempêtes. Ce ne sera pas facile, mais ils ont le matériel, ils ont la connaissance, ils ont tout ce qu'il faut pour y arriver. Je n'ai pas de crainte pour eux. Moi, je m'arrête là. Je reste militant, mais je vais devenir retraité. Et si, par hasard, et modestement, j'ai contribué un petit peu à cette grande victoire, j'en suis très heureux.
Bravo!
On revient avec Gérard de la CGC Fralib autour des raisons du succès de cette lutte.
Presque 4 ans de lutte, ça crée des liens entre les gens. Bon, là, on est tout content, ça se passe bien, on fait la fête, mais il y a eu des moments très difficiles. Hein. Je ne peux pas vous raconter tout, mais il y a eu des moments où on était prêts de craquer et on s'est remis en route. Hein. Mais bon, et ça, pour ça, il faut avoir le mental et puis travailler avec des gens qui en veulent autant que vous. Hein. S'il y en a un qui faiblit, il faut le rattraper tout de suite et puis on repart. Hein. C'est
sympa. Est-ce que tu peux expliquer dans l'historique, donc les 182 employés au moment de l'annonce de la fermeture, les 76 qui restent?
Oui,
comment ça s'est passé?
On était 182, et bon, à partir du moment où l'annonce a été faite, il y a eu le plan social. À partir du moment où, juridiquement, Unilever a eu le droit de proposer un chèque aux personnes, c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Et donc, il y en a qui ont choisi ce système, hein, de prendre le chèque rapidement. Mmh. Bon, on n'a pas été non plus méchants avec eux, puisqu'on a quand même essayé de qu'ils aient un chèque confortable, disons, qu'ils partent pas avec une bricole. Mais bon, après, c'est la liberté de chacun. Hein. Chacun voit.
Alors, donc, les 76 qui sont restés à lutter, ils n'avaient plus de revenus.
Ils ont été. Alors, on ne peut pas dire qu'ils n'ont pas plus de revenus, parce qu'à partir du moment où, justement, ils ont arrêté d'avoir des revenus, nous, on s'est débrouillé pour, justement, qu'ils aillent à Pôle emploi.
Hein. Mais. Donc Pôle emploi.
Ouais, pour pas qu'ils soient sans revenus du tout. D'accord. Donc, ils n'ont jamais été vraiment sans revenus.
Mais ça a été dur quand même, parce que j'imagine qu'il y a des pertes de revenus.
C'est un coup quand vous vous retrouvez à Pôle emploi, en fait, vous demandez ce que vous allez devenir. Mais bon, on n'avait pas d'autre solution pour garantir.
Surtout que Pôle emploi, il ne garantit pas 1336 jours de chômage.
Non. Bon, là, ça va, hein, apparemment, ils ne vont pas perdre d'argent. Mais il y a eu ça, il y a eu le congé reclassement aussi, il y a eu pas mal de toutes ces mesures-là qui ont fait que, à la finale, bon, ils n'ont pas perdu d'argent. Ils ont perdu de l'argent, oui, parce qu'il y a des gens qui travaillaient la nuit ou par poste, donc toutes les primes sont tombées, mais le salaire de base, ils l'ont gardé. Quoi.
Et donc votre vie sur ces 3 ans, vous avez été plus à l'usine que chez vous?
Peut-être pas plus à l'usine, mais plus à l'extérieur, parce que les voyages, j'ai pas voulu le mettre dans mon intervention, mais ça, il faut pas qu'ils comptent sur moi maintenant pour aller à Paris en bus ou des trucs comme ça. Il y a eu des galères comme ça, je vous dis pas. Hein. L'aller-retour en 24 heures dans un bus ou dans des minibus, on a pour 48 heures à s'en remettre, hein, de ça. Alors les jeunes, peut-être ça va, mais moi, c'était fini.
Mais bon. Et comment on pourrait expliquer que ça a marché pour les Fralib et puis pour d'autres entreprises, parce que c'est quelque chose qui est général dans toutes les industries, hein, le fait de délocaliser, de fermer des boîtes, eh bien il n'y a pas d'autres choses qui ont pris ailleurs, enfin d'autres ouvriers qui se sont rassemblés en disant bah, nous on reprend nos entreprises, nous on se bat pour garder nos emplois.
Bon, moi j'ai une analyse personnelle là-dessus, hein. Tous les conflits que j'ai vus et ça a mal fini. En général, vous aviez 2, voire 3 syndicats. Ils n'étaient pas capables de faire une intersyndicale. Et à partir du moment où il y en a un qui lâche, l'autre lâche, et puis ça part comme ça. C'est important. On ne peut pas avoir tous les mêmes idées, mais au moins, quand on ferme votre usine, qu'on va mettre tout le monde dehors, soyez, rassemblez-vous et essayez de vous entendre. C'est important. Pourquoi qu'Unilever a abandonné? Parce qu'on était. Il a vu que le noyau, la D76, il ne pouvait pas le casser. Hein. S'il avait pu le casser, il a essayé. Il ne pouvait pas le casser. Bon, il était obligé d'abandonner. Mais j'ai vu dans tous les conflits. Hein. Il y a toujours un syndicat qui part. L'autre, il dit oh, si lui il part, moi aussi je pars. Et puis voilà, et ça finit comme ça. Généralement, vous regardez, ça finit toujours comme ça. Il faut savoir qu'en France, il y a plus de 400 SCOP qui fonctionnent. Hein, qui fonctionnent très bien. Et quand on regarde les statistiques sur les créations d'entreprises, le pourcentage de réussite est meilleur chez les SCOP que chez les privés. Bon, c'est pas énorme, mais c'est 10% de plus, mais c'est quand même ça. Nous, Unilever, on a connu combien de plans sociaux? À chaque fois, ils ont mis un repreneur, et ça prend 2 ans. Les mecs, ils prennent le fric, et puis ils disent « Bah non, en fait, on a essayé, mais il n'y a rien à faire. » Ils s'en vont les poches pleines, et puis c'est encore pire que les 2 ans d'avant. Donc nous, repreneurs, c'est pour ça que j'ai fustigé le repreneur, on n'en voulait surtout pas, on sait ce que ça vaut, et on sait que ça marche jamais. Oh, peut-être à quelques exceptions près, mais moi je ne reconnais pas. Donc le meilleur moyen, c'est de s'approprier l'outil de travail, et puis
Donc si je te suis bien, en fait, ce qui a fait le fait de se projeter dans la réappropriation de cet outil, c'est de se dire, on y croit, on y va, on lâche pas, et on reste tous solidaires. Ouais. C'est ça qui est vraiment important, en fait.
C'est ça le plus important. Et à partir du moment où on connaît bien son métier et tout, en plus, il ne faut pas croire, quand on crée une SCOP comme ça, il y a l'Union régionale des SCOP derrière. Nous, on a quand même le conseil régional derrière nous, le conseil général. Avant, on avait l'agglo d'Aubagne, on a même l'agglo de Marseille, même si ils sont partis de l'autre côté. Mais ils nous tiennent, quoi. On n'est pas tout seul, quoi. Ils sont là. Hein. Vous avez vu, j'ai remercié les politiques, ils sont toujours là depuis le début. Donc on sait que si on a un gros problème, un gros coup dur, ils vont essayer de nous aider. Quoi. On ne se sent pas de seul.
Et au-delà de la SCOP, il y a aussi l'engagement à produire autrement que ce que faisait Unilever. Donc aller chercher des productions locales avec le tiel des baronnies, aller chercher du commerce équitable avec des liens avec des producteurs au Vietnam. J'imagine que c'est des choses qui vont être développées encore plus à l'avenir. Mais ça, c'est quelque chose qui est venu tout de suite.
Ça fait au moins pas loin d'une dizaine d'années que dans les comités d'établissement, on critique ça. Mmh. Ils disent, vous vendez à prix d'or des produits de plus en plus dégueulasses. Nous, c'est ce qu'on fait, on met des produits chimiques, on fait n'importe quoi, et vous vendez ça comme si c'était de l'or en barre, alors qu'on sait que c'est... Alors bon, c'est de là où nous est venue l'idée de revenir à des produits plus simples, plus de base, sachant que c'est au niveau rentabilité, pour nous, c'est pas... Pour, enfin, je dis toujours « nous », alors que moi, j'y serais pas. Mais... ils n'auront pas d'actionnaires à payer. Donc ils peuvent la marge, ils l'auront facilement sans faire des produits dégueulasses.
Même avec des produits plus chers.
Même avec des produits plus chers.
Alors est-ce qu'on peut envisager justement que les produits vendus par la Scoptine ne seront pas plus chers que les produits vendus par Unilever?
De toute façon, c'est quasiment impossible. Ils vont embaucher un directeur commercial. Vous ne rentrez pas dans les grandes surfaces si vous êtes plus cher que les autres. La concurrence, vous êtes obligé de l'accepter. Seulement, il faut faire. On a largement de quoi faire des produits corrects. Hein. D'abord, ils en vendent, là, ils ont des boîtes. Là, c'est pas vrai, c'est des productions militantes. Donc, mais on vendra pas, ils ne vendront pas les boîtes de ce prix-là quand ça sera dans les grandes surfaces. Les grandes surfaces n'accepteraient jamais, de toute façon.
Mais bon. Très bien. Merci, Gérard. On va te laisser profiter de,
ouais, un petit
de
peu, cet instant.
De jouir de cette victoire.
Ouais. Oh, ça fait toujours plaisir, c'est de revoir un petit peu tout le monde. Quoi. Ça fait du bien.
Ouais. Non, mais voilà. Bravo quand même.
Ouais, franchement, bravo. Bravo. Franchement, bravo.
Bon, vu que ça laisse une trace quelque part et que les autres se disent on peut y arriver.
Ça donne de l'espoir.
Ça donne de l'espoir. Ouais. Merci.
Au revoir. Merci à toi.
Chauffe, chauffe, chauffe le soleil, souffle un vent de panique. Gagnons les causes perdues, déployons notre jeunesse. Sa fougue et son chahut, sa rage et sa tendresse. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyons que sont la roi. Et le roi qui est dans ça.
abracadabra le miracle. On va transformer cette salle en grande scène de spectacle. Mesdames et messieurs, on joue pour vous ce soir.
Entrée libre pour tout le monde, chacun aura sa place. Là dans la demi-ronde, sans première ni deuxième classe. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, c'est au risque de la loi, et la loi qui est ça. Les gosses sur les épaules, les filles par la main. On sera triste, on sera drôle, partager notre chemin. Et vive la bohème, et vive les voyages. Leurs réponses, leurs problèmes, peut-être leur dérapage. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la roi, et à roi qui est ça.
Nous couchons si souvent avec la belle étoile. Son amour est vivant, gonfle notre grande voile.
Et grave dans notre voix, l'empreinte d'une goutte de pluie. La chaleur et le froid, l'enfer, le paradis. C'est pas nous qui sommes à la rue, c'est la rue qui est à nous. Non, soyez au qui sont la loi, et la loi qui est dans ça.
Vous êtes toujours à l'écoute de Radio Zinzine en compagnie des acteurs de la lutte des Fralib. Thierry, responsable de l'UDCGT des Bouches-du-Rhône, merci d'accepter de répondre à nos questions. On a senti une grande émotion tout à l'heure quand vous avez pris la parole les uns après les autres pour ce meeting. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur cette émotion? Comment toi tu la vis en fait?
Disons que quand on a connu tout le déroulé du conflit, ça fait 3 ans et demi quand même, 1336 jours, donc ça a été dur. On a eu des bons moments, on a eu des moments compliqués, des moments, des doutes, où on doute, où on a des camarades qui ne comprennent pas toujours l'objectif. Voilà, donc c'est toujours compliqué avec une direction d'Unilever, de la multinationale, qui a joué de tous ses pouvoirs pour justement faire en sorte qu'on dégage le plus vite. Voilà. Et donc nous, on s'est rencontrés, il a fallu qu'on calme les camarades tout en disant attention, ne tombons pas dans les pièges. C'est-à-dire quand il y a une milice privée, comme on a eu à Fralib, qui t'empêche du jour au lendemain de rentrer, alors qu'ils ont décidé de délocaliser en Pologne. J'arrive à comprendre, moi, que les salariés, ils aient la colère après eux et qu'ils veulent leur entrer dedans. On a fait en sorte aussi d'essayer de tenir tout le monde, ce qui n'a pas été facile, puisque tout le monde a son caractère. Pour nous, c'est clair que ce conflit, eh ben, il est significatif aussi du climat actuel, qui apporte vraiment une lueur d'espoir pour tous les conflits actuels, que dans la période, c'est bien qu'on ait gagné, c'est bien que, même si pas tout est fini, hein, puisque derrière il va falloir maintenant concrétiser, notamment avec la SCOP, et y compris avec les engagements du gouvernement qui ont été donnés, qu'il va falloir qu'ils les tiennent jusqu'au bout.
Tu es syndicaliste permanent, là, voilà. Est-ce que vous l'aviez vu venir? Est-ce que vous aviez préparé? Vous étiez prêt à ce conflit? Ou ça vous est tombé dessus comme ça du jour au lendemain?
Le problème, c'est qu'en général, quand les multinationales décident de fermer, ils ne nous avertissent pas. Voilà. Après, on l'a appris comme dans tout conflit et comme qu'on apprend des coups durs.
Que voilà, les préavis
légaux, mais souvent, y compris les salariés de l'entreprise, ils apprennent Ils apprennent par la presse, par les médias, la fermeture de leur entreprise. On est dans un contexte politique particulier et qui fait aujourd'hui que les multinationales, ils ont tous les pouvoirs. Multinationales et autres, y compris les directions d'entreprise. Donc quand, effectivement, on apprend que votre entreprise, eh ben, elle va fermer, eh ben, au départ, le premier truc, c'est la colère. Ensuite, il y a une deuxième geste, on se dit, bon, est-ce qu'on peut gagner le loto parce qu'ils vont partir ? Très vite, on se rend compte que ce n'est pas le loto qu'on gagne, c'est un an de salaire ou deux ans de salaire, et qu'on se retrouve derrière dans une situation précaire. Quand on a 30 ou 40 ans, ben, on ne réfléchit pas pareil que quand on a 60 ans. Et de fait, ben, après, on se dit, comment on fait ? Voilà. Et donc là, les camarades, ils ont fait le choix, tout en disant et tout en étant clair depuis le début par rapport à ce qu'on fait de Fralib. Il y aura aussi des créneaux, mais nous, on souhaite se battre pour l'emploi. Et ce qui a pris, puisque 76 salariés, hein, ils ont lutté justement pour garder leur emploi. Aujourd'hui, on débouche sur la SCOP. Comme je disais tout à l'heure, il faut que les engagements ils soient tenus pour réaliser, mais on avait 1 million d'euros d'Unilever, donc ça va permettre aussi de mettre du beurre aux épinards. Quoi.
182 employés, 76 combattants. C'est normal, c'est beaucoup, c'est pas beaucoup.
Il faut qu'on prenne en compte que 3,5 ans, c'est long. Avec une direction qui a joué, comme je disais tout à l'heure, de tous ses pouvoirs pour nous faire dégager. Et donc, on arrive à comprendre, ça a été dit dans le meeting. Voilà, ils nous ont obligés à aller dans les, comme il disait Olivier Le Berquier, voir les charognards. Les agences, voilà. Et il y a eu tout ça, il y a eu toutes ces pressions-là qu'il a fallu tenir avec une direction d'Unilever, avec les Golgoth, comme on les appelait, avec, voilà, et donc il fallait tenir tous ces bouts-là.
Qu'est-ce qui fait que les 76 ont tenu, voilà.
Ben, il fait que c'est la détermination et c'est l'action collective qui démontre que quand on est déterminé et qu'on croit en quelque chose, eh ben, il n'y a rien qui peut nous arrêter. Moi, je suis persuadé, et on le voit sur plein de conflits. On a eu des conflits avant. Moi, je prends toujours comme exemple le conflit de la Ciotat, qui a duré 20 ans.
Oui, la Ciotat, sur les chantiers navals.
Voilà, ouais. Qui a duré 20 ans. Et au final, le portique, il y est toujours.
Oui,
grâce à l'action collective, c'est grâce à la mobilisation de tous les syndicats, CGT, qui a permis aussi que le portique il reste à la Ciotat et qui a permis aujourd'hui d'avoir un ascenseur à bateau, d'avoir des emplois industriels encore sur place, le site de la Ciotat.
Mais est-ce que cette victoire aujourd'hui des Fralib, avec quand même une expérimentation dans ce que va mener cette SCOP, est-ce que c'est pas quelque chose qui peut éclabousser sur d'autres conflits ? Je pense à Elfonderie, je pense au Moulin Morel. Bon, il y en a sûrement des tonnes d'autres dans le département. Mais est-ce que c'est pas quelque chose qui vous a enseigné des choses au niveau de la CGT, à essayer d'avoir des idées, de se dire ben ouais, peut-être que on va pouvoir se passer de plus en plus des patrons ?
C'est la grande question. Est-ce que les SCOP, c'est les alternatives aux délocalisations, à la mondialisation, moi j'y crois parce qu'aujourd'hui on voit que le capital, ben, il n'a pas de frein, il en veut toujours plus. Donc est-ce que ça peut être la solution et des alternatives aux délocalisations ? Moi je pense que oui, mais après il faut faire attention. Là on est dans l'agroalimentaire, on a des moyens pour démarrer, on peut se faire une image, on peut se faire une marque. C'est pas le cas partout. Prenez la question des raffineries. Dans les raffineries, si vous ne traitez pas l'amont et l'aval, derrière, c'est compliqué pour vivre. Voilà. Après, le capital, il va créer toutes les conditions pour combattre ces formes de puisqu'il veut garder la main sur tout. Voilà. Donc là, il faut que nous, on soit prudents. Mais par contre, que oui, moi je pense que dans plusieurs entreprises et dans plusieurs situations, on peut réfléchir à le travailler comme ça.
Au-delà de l'emploi, il y a une autre question qui se pose aussi et que montre bien les Fralib, c'est peut-être la question de produire autrement. Puisque là, ils proposent des choses intéressantes en allant vers le commerce équitable, en allant vers les produits locaux, etc. C'est une réflexion que vous menez en global à la CGT aussi ?
Ben, c'est une réflexion qu'on mène pas assez. Et qu'il faut qu'on mène. Parce que là, nous, on est un peu mis là devant les faits accomplis, hein, sachant que cette forme, on ne la connaît pas trop. Moi, en ce qui me concerne, je ne la connais pas. Voilà, donc on apprend aussi à le travailler. Mais effectivement, quand on discute avec les camarades, ils nous disent que on pourrait faire de la qualité comme ils le faisaient au tout début avant, qu'il n'y a pas aujourd'hui chez Unilever. Voilà, donc, et cette qualité, elle peut permettre aussi de faire la différence par rapport à faire la différence dans les rayons. Et en termes de prix, et en termes de qualité. Je pense que toutes les formes de solutions alternatives, il faut qu'on les travaille. Voilà, il faut qu'on les travaille parce qu'on ne peut pas se contenter aujourd'hui, dans le monde qu'on est, à dire non. Et quand on dit non, mais nous, on a telle et telle proposition, c'est mieux que si on dit uniquement non, on n'est pas d'accord. Et... Parce qu'après, très vite, on vient dans des débats un peu récurrents qui sont comment on fait pour s'en sortir ? Est-ce qu'il faut une grosse somme d'argent ? Est-ce qu'il faut... Non, nous, on pense que si on veut sauvegarder, y compris notre système social, il faut qu'il y ait de l'emploi. Il faut qu'il y ait de l'emploi, il faut qu'on ait une protection sociale de haut niveau, mais s'il y a... Il y a 10 millions de chômeurs dans 10 ans, la protection sociale n'en aura plus, hein, au-delà des attaques actuelles sur la protection sociale, mais voilà, donc on n'en aura plus et derrière ça sera compliqué de poursuivre dans de bonnes conditions et de militer dans de bonnes conditions.
Alors je me permets de faire un peu poil à gratter, est-ce qu'il faut de l'emploi à tout prix ? C'est-à-dire est-ce qu'il faut de l'emploi pour mener des tâches qui ne sont pas forcément gratifiantes ? Et là, ce qui est intéressant dans le cas des Fralib, c'est que quelque part, ils ont trouvé la solution de se gratifier et de se mettre en avant, y compris dans leur lutte, en se mettant en avant, en faisant de la musique, en faisant du théâtre, tout ça. Il y a peut-être des emplois qui ne mènent pas à s'épanouir, quoi. Est-ce qu'il faut de l'emploi à tout prix ? Ça, c'est une question importante aussi, peut-être.
Ben après, il faut se poser la question, est-ce qu'il faut des chômeurs à tout prix ? Parce que moi, je pense que tout emploi aujourd'hui est gratifiant. Après, quel que soit le niveau d'emploi. Après, il faut justement, comment on fait pour l'améliorer là où il n'est pas assez gratifiant, comment on fait pour varier les possibilités. Mais une chose est sûre, c'est que si on n'a pas l'emploi, c'est la mort. C'est la mort. Si on n'a pas d'industrie, si on n'a pas de fait, on n'a pas d'industrie, on n'a pas de service public. On n'a pas les services publics, on n'a pas toutes les entreprises d'État aujourd'hui, la Poste. Derrière, en déclinaison, il y a une cascade, on le paye cash, quoi. C'est pour ça que nous, on dit qu'il faut qu'on travaille le maintien et le développement de l'emploi industriel pour derrière permettre que les hôpitaux publics fonctionnent, que les services publics de proximité fonctionnent, que les petits commerces y vivent. Et là, ça fait de l'emploi pour tout le monde. Si du jour au lendemain, on n'a plus d'entreprise forte, génératrice d'emplois, derrière, c'est clair que c'est compliqué. On prend toujours tout le temps l'exemple. Comment on ferait sur l'étang de Berre s'il n'y avait pas le complexe pétrochimique ? Que deviendrait l'hôpital de Martigues ? Que deviendrait tous les services publics de proximité autour ? Alors qu'on sait que dans des endroits où il y a eu des fermetures de grosses entreprises, moi je reprends toujours cet exemple, La Ciotat, même si on a maintenu l'outil industriel, on est passé de 2 ou 3 000 salariés à très peu aujourd'hui, on prend la mine qui a fermé à Gardanne, les petits commerces derrière, ils se sont retrouvés dans une situation très compliquée. Voilà, et d'ailleurs, il y a eu un turnover au niveau des petits commerces parce qu'ils avaient connu une situation avec un pouvoir d'achat dans la ville qu'on n'avait plus. Voilà, et ce n'est pas les chômeurs qui font vivre ni les commerces, ni les services publics.
Du fond de ma cité HLM, jusque dans ta campagne profonde, notre réalité est la même, et partout la révolte gronde. Dans ce monde on n'avait pas notre place, on n'avait pas la gueule de l'emploi. On n'est pas né dans un palace, on n'avait pas la CB à papa. SDF, chômeurs ouvriers, paysans, immigrés sans papier. Ils ont voulu nous diviser, faut dire qu'ils y sont arrivés. Tant que c'était chacun pour sa gueule, leur système pouvait prospérer. Mais fallait bien qu'un jour on se réveille et que les têtes se remettent à tomber. On lâche rien, 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 on lâche rien. Ils nous parlaient d'égalité, et comme des cons on les a crus. Démocratie fait-moi marrer, si c'était le cas on l'aurait su. Que pèse notre bulletin de vote face à la loi du marché? C'est con mes chers compatriotes, mais on s'est bien fait baiser. Et que pèsent les droits de l'homme face à la vente d'un Airbus? Au fond, y'a qu'une seule règle en somme, se vendre plus pour vendre plus. La République se prostitue sur le trottoir des dictateurs. Leurs belles paroles, on n'y croit plus, nos dirigeants sont des menteurs. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. C'est tellement con, tellement banal, de parler de paix, de fraternité, quand des SDF crèvent sur la dalle, et qu'on mène la chasse aux sans-papiers, qu'on jette des miettes aux prolétaires, juste histoire de les calmer, qu'ils s'en prennent pas aux patrons millionnaires, trop précieux pour notre société. C'est fou comme ils sont protégés, tous nos riches et nos puissants, y'a pas à dire, ça peut aider, d'être l'ami du président. Chers camarades, chers électeurs, chers citoyens, consommateurs, le réveil a sonné, il est l'heure de remettre à zéro les compteurs. Tant qu'il y a de la lutte, il y a de l'espoir. Tant qu'il y a de la vie, il y a du combat. Tant qu'on se bat, c'est qu'on est debout. Tant qu'on est debout, on lâchera pas. La rage de vaincre coule dans nos veines. Maintenant tu sais pourquoi on se bat. Notre idéal, bien plus qu'un rêve. Un autre monde, on n'a pas le choix. On lâche rien, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. On lâche rien, on lâche rien.
M6, le 28 mai 2014.
Libéré. Après 1336 jours de lutte, les ouvriers de Fralib peuvent crier victoire. Ils ont sauvé leur usine.
Certaines personnes nous disaient, lâchez tout les gars, vous êtes foutus, des gens de l'extérieur, vous n'y arriverez pas contre une multinationale. Et tout qu'on fait, ben, la multinationale, ben, pour moi, je dis franchement, elle est en dessous et nous on est au-dessus, les petits ouvriers, et on a mangé une multinationale. Voilà.
La multinationale Unilever, ancien gestionnaire du site, a signé un accord lundi soir, impensable il y a 3 ans et demi, au début du conflit. À l'époque, 182 salariés sont menacés par la fermeture de l'usine. Certains optent pour un départ volontaire, les autres occupent le site jour et nuit. Et surtout, ils se battent sur le terrain judiciaire et font ainsi annuler 3 plans de sauvegarde de l'emploi.
On n'a pas lâché et on avait dit il y a 4 ans, presque il y a 4 ans en arrière, qu'il n'y a pas un boulon qui sortira cette usine. Il n'y a pas un boulon qui sortira cette usine. Maintenant, tout est à nous, quoi.
Unilever va leur verser 20 millions d'euros pour indemniser les salariés, mais aussi pour leur permettre de créer une SCOP, une coopérative ouvrière. Le but, redémarrer sous une nouvelle marque la production de thé et d'infusion.
On va organiser les choses pour qu'on dépose officiellement nos statuts, qu'on puisse organiser les manques au niveau qu'on a, notamment au niveau commercial, pour entamer des formations et mettre en œuvre cette SCOP de la meilleure manière possible pour qu'elle soit pérenne.
Une 60aine de salariés devraient travailler au sein de la coopérative. Ils espèrent reprendre l'activité avant la fin de l'année.
Bon Olivier, la première chose, bravo hein, pour tout ce combat que vous avez mené.
Merci.
Et puis pour cette journée très bien organisée.
Oui, bah, une belle journée, très très belle journée. Ouais, donc, 1336 jours de lutte, donc ça se fête.
Ah ouais, mais vous avez fait ça avec les grands moyens.
Non, les grands moyens, nos moyens à nous, mais on a tellement eu comme une grosse solidarité autour de nous. Bah, voilà, c'était entre guillemets le minimum qu'on se devait de faire pour fêter cette fête dignement. Quoi.
Ouais, voilà. je t'avoue que on aurait pu transférer le buffet au MEDEF, je pense que ça ne se serait pas vu. Hein.
Ah ouais bah, donc c'est... Merci, mais bon, l'intention c'était pas trop... Voilà, c'est surtout les gens ils sont là, on voit bien qu'ils ont plaisir à être ici. Non, ouais, après voilà, certains ils ont consommé, d'autres un peu moins, mais c'est surtout on voit bien que les gens ont beaucoup de plaisir à être ici.
Fini Fralib, bonjour la SCOPTI. Très concrètement, qu'est-ce que ça va donner dans les semaines et les mois à venir pour la SCOPTI?
Alors déjà on va dire fini Unilever. Ouais. Et bonjour Scopti, parce que peut-être qu'on fera des choses autour de Fralib.
C'est-à-dire
Bah, il suffit de lire. On a rajouté un S à Fralib et ouais. Ça veut dire fraternité, liberté, solidarité. Fraternité, solidarité. Donc voilà, il y a peut-être des choses qui peuvent tourner autour de ça par rapport à la future marque qu'on va créer. Donc voilà, donc comment ça va se venir? Bah, on a déjà commencé à travailler sur la suite des événements parce qu'on vient de remporter une bataille et entre guillemets, j'aime pas ce terme-là, mais on solde le conflit là aujourd'hui et on se projette tout de suite sur l'autre combat. Mais on avait déjà travaillé en amont, donc sur les 76 salariés qui ont mené la bataille jusqu'au bout, 60 ont adhéré à la SCOP. Sur les 60, 52 ils seront salariés. Avec une partie qui ça sera décalé puisqu'on a réussi à obtenir que les salariés protégés restent encore à l'effectif du Nivert jusqu'à la fin de l'année et ensuite bénéficient d'un congé de reclassement, ce qui nous permet, pas qu'on est attaché à rester à Nivert, mais surtout ça nous permet d'avoir les salaires qui pèseront pas sur les premières années de la SCOP. Dès lundi, on a organisé, déjà de remettre tout en ordre parce que voilà, ouais. Il y a eu beaucoup de monde aujourd'hui, donc mettre tout en ordre, mais aussi surtout de travailler par service. On a les copains et les copines se sont inscrits dans chaque service qu'on a créé et des groupes de travail vont se mettre en ordre. Un groupe de pilotage dès mardi sera à l'œuvre pour regarder les projets qu'on nous propose et prendre des décisions.
Et les chaînes vont démarrer quand ?
Alors on s'est fixé un objectif, c'est un peu trop prématuré pour dire aujourd'hui avec précision à quel moment elles vont démarrer. Je serais tenté de dire elles vont démarrer dès demain parce qu'on a toujours dans le projet, dans le moment où on redémarrera officiellement, de continuer les productions militantes qu'on a fait pendant le conflit. Donc on a fait du tilleul menthe, du thé vert que vous avez pu découvrir aujourd'hui. On va refaire du tilleul avec la récolte de cette année puisque 500 kg des Billy Baroni vont nous arriver prochainement. Donc on refera avec nos chaînes de production de la production militante. Mais la production réelle, celle qui intéresse tout le monde de savoir quand est-ce qu'elle va redémarrer. On s'est fixé comme objectif, dernier trimestre de cette année, création officielle de la SCOP au niveau juridique, on va le dire, administrative. Et premier trimestre de l'autre année pour le démarrage de l'activité pure. Voilà. Et par rapport aux éléments qu'on a aujourd'hui, il est probable que ça soit ces optiques-là qui soient un petit peu avancées parce qu'on a tellement comme sollicitations. Et en fonction des choix qu'on va prendre, peut-être que ça démarrera plus vite que prévu.
Et pratiquement, pour les ouvriers, leurs revenus sont soit Unilever qui continue à en payer certains...
Bah donc les salariés protégés, les 14 qui n'étaient pas encore licenciés, puisque c'est la particularité de notre dossier, Unilever ayant pas du tout respecté les lois, ils ont licencié les salariés, les licenciements annulés, mais ils n'acceptaient pas de les remettre en poste. Par contre, les salariés protégés, les licenciements ont toujours été refusés par l'inspection du travail, le ministère du travail, le tribunal administratif. Donc on était toujours salariés de Fralib. Donc aujourd'hui, dans l'accord, on a obtenu qu'ils restent encore salariés du Nilover jusqu'à la fin de l'année. Donc, ensuite, congé de reclassement. Donc on va dire grosso modo 2 ans de payer par un Nilover pour construire la SCOP pour ces personnes-là.
Et les autres ?
Et les autres, donc ils sont déjà inscrits au chômage puisqu'il a fallu trouver une solution. Néanmoins, on a fait requalifier leur situation en refaisant payer les caisses d'Unilever, à repayer les caisses notamment de retraite pour repayer leurs cotisations. Et donc ils ont encore des droits ouverts jusqu'à un certain temps. D'accord. Mais on va les faire rentrer progressivement le plus vite possible, bien sûr, pour pas qu'ils restent dans cette situation-là. Mais il y a des formations prévues. Voilà. Et donc on va bâtir un plan de formation, soit rentrer en formation, soit tout de suite rentrer dans la SCOP pour démarrer l'activité.
Mais le coup près, parce que je pense que le coup près pour la SCOP, ça va être le jour où elle dépensera plus que ce qu'elle le gagne. Et pour l'instant, elle ne gagne rien.
Ça dépend comment on le prend. Elle a déjà gagné 20 millions d'euros.
Oui,
on peut le dire comme ça.
On démarre. C'est 20 millions d'euros, il faut pas les bouffer trop vite.
Bien sûr que non. Enfin, 20 millions, quand je le dis.
20 millions d'euros, ça fait quoi? Ça fait 2 mois de salaire sur l'équipe
Beaucoup moins que ça. Nous, on n'a pas les salaires de nos dirigeants. 20 millions de salaire, pour vous donner une idée, 20 millions d'euros, c'est 2 ans de masse salariale des salariés de Fralib sur les 182 avec les salaires de nos dirigeants qui étaient grassement payés. Donc on est bien en dessous de ça.
Vous avez un peu de temps.
Mais les 20 millions quand même, pour être beaucoup plus mesuré, il y a une partie, c'est l'indemnité individuelle des salariés et les salaires qui étaient retenus par Unilever, donc qui vont être régularisés, à peu près 10 millions. 7 millions qui constituent le patrimoine, c'est le chiffrage de l'outil industriel, et donc 3 millions pour démarrer la SCOP. Donc réellement sur l'activité de la SCOP, c'est 3 millions. Pas grand chose pour les capitalistes, pour nous c'est déjà beaucoup. Et donc on va faire fructifier. C'est pas une question de temps, c'est que nous on voit bien les perspectives qui s'offrent à nous et les propositions qui nous sont faites. Et on pense que très rapidement, on va pouvoir avoir des volumes d'activité qui vont nous permettre déjà d'équilibrer et d'avoir le point d'équilibre de l'entreprise et de mettre en œuvre notre projet, notamment sur toute la filière courte, la remise à niveau de notre équipement, la mise en œuvre de l'aromatisation, la remise en œuvre de notre ligne de coupe. D'accord. Donc tout ça, c'est des perspectives qui sont plutôt très favorables.
Et puis des perspectives avec une façon de faire qui va changer.
Ah bien sûr, puisque là, on ne part pas d'une situation où on nous impose des choses, des têtes bien pensantes, grassement payées, dans leur bureau feutré de Rotterdam ou en Suisse ou je ne sais où, qui décideraient, et ici, alors qu'ils ne nous connaissent même pas, nous, on devrait appliquer. Nous, on a tout sur le terrain, avec les mains dans le cambouis, 52 salariés coopérateurs qui régulièrement se réuniront, au moins en assemblée générale une fois par an, voire même plus pour élire leur comité d'administration, leur conseil d'administration, qui lui-même désignera son président et son directeur général et qui traceront les lignes, les 52 politiques industrielles et sociales, économiques de l'entreprise. Et si demain, les salariés considèrent que la ligne du conseil d'administration et du PDG ne convient pas et ne correspond pas à ce qui a été tracé, et assemblée générale, on l'enlève et on en met un autre. Et voilà, ce qui n'est pas possible dans le système capitaliste puisqu'on nous impose des directions qui, eux, ont simplement en face d'eux, pour eux, des numéros. Et on leur dit, il faut faire comme ça, et c'est pas autrement.
Alors là, tu parles de 52 employés. Donc, les 182 employés avant la délocalisation, 76 qui ont gagné la lutte. Et là, tu parles de 52 qui vont bosser. Alors, explique.
Bah, parce que on démarre une lutte à 182. En 28 septembre 2010, il y a 4 ans. Ouais. Donc il y a des salariés qui à cette époque-là avaient 54, 55, 56, 57, voire même 59. Ils sont restés dans la lutte jusqu'au bout, mais aujourd'hui, ceux qui ont plus de 60 ans, qui sont pas loin, vous doutez bien qu'aujourd'hui, ils sont pas insensibles à la suite des événements, puisqu'ils sont là aujourd'hui parmi nous et ils continueront à venir voir comment ça se passe. Et évidemment, ils aspirent à d'autres choses sur leurs prochaines années.
Donc l'objectif, c'est de faire travailler les 52 personnes, là.
Bien sûr. L'objectif, c'est déjà les 52. Voilà.
C'est un chiffre qu'on n'avait pas encore.
Voilà. Les 52. Ben non, c'est récent, parce que c'est vendredi que ça s'est calé. Donc c'est très, très récent, le 52 salariés.
Et alors, Olivier, si tu le permets, on aimerait s'intéresser un peu plus à ton parcours personnel, puisque tu as connu le Havre. Mmh. Tu es parti du Havre pour venir ici. Qu'est-ce qui t'a motivé à être à l'avant de cette lutte après déjà un premier licenciement et une première délocalisation ici à Gemnos? Qu'est-ce qui, toi, t'as vraiment donné la force de te projeter dans ce combat sur toutes ces années?
La même qui m'avait motivé déjà en 97 quand on nous annonce le projet de fermeture du Havre. J'avais 35 ans à l'époque, mes enfants ils avaient 10 et 6 ans. On vit dans un pays qui est qualifié le pays des droits de l'homme. Mais bon, ça c'est les belles paroles, les beaux mots, c'est écrit un peu partout. Sauf que quand on a 35 ans, qu'on milite simplement pour conserver son emploi avec l'étiquette CGT et qu'on n'y arrive pas parce que c'est ce qui s'est passé au Havre, on n'a pas réussi à pouvoir conserver nos emplois sur place. Quand on regarde et qu'on va frapper à la porte à d'autres employeurs, on nous fait comprendre que les délégués CGT notamment, ils ne sont pas les bienvenus, et surtout quand on s'appelle Le Berquier, c'est loin d'être les bienvenus. Donc moi, c'est peut-être pas courageux de ma part, mais considérer qu'à 35 ans, si j'avais été seul, à la limite, pas grave, j'assumais et voilà, j'aurais essayé de me débrouiller tout seul. Mais j'avais une femme, j'avais deux enfants âgés de 10 et 6 ans. J'ai considéré qu'à 35 ans, je ne pouvais pas faire prendre le risque à ma famille de rester sans emploi à cet âge-là, et je ne savais pas où ça m'amenait. Donc, par obligation, j'ai dû descendre à Marseille parce que, encore une fois, j'insiste lourdement peut-être, mais quand la France, j'entends des hommes politiques ou donner des leçons de droits de l'homme à d'autres pays à l'autre bout de la planète, je pense qu'on ferait mieux de regarder dans notre pays ce qui s'y passe, et on est loin d'être au niveau pour pouvoir se permettre de donner des leçons à ce qui se passerait dans d'autres pays. Moi, je l'ai vécu, la discrimination syndicale, ça existe en France. Arrivé ici, il a fallu que j'entame avec Gérard et d'autres une procédure au tribunal pour discrimination syndicale parce qu'on m'avait privé d'augmentation de salaire depuis plus de 20 ans. Et donc, c'est par les tribunaux que j'ai pu être requalifié professionnellement et qu'Unilever a été condamné déjà en 2008 à nous remettre un coefficient qui correspondait à notre compétence professionnelle. Tout ça, ça motive. Et bien sûr, les salariés qui... Nous, ce qu'on dit, c'est que il n'y a pas de fatalité aux décisions de grands groupes comme Unilever. Et le meilleur moyen de conserver un emploi aujourd'hui, d'avoir un emploi aujourd'hui, c'est de conserver celui qu'on a. Surtout quand on sait que cet emploi, il est dans un site de production qui est rentable et qui est profitable. Donc c'est pour ça qu'on a mené cette bataille.
Et le fait de descendre, comme tu dis, ça a été quelque chose de facile sur le plan personnel, de déménager, de s'installer ici ?
Ah non, ça c'est une décision très compliquée, très dure. Et un arrachement parce que... la famille à 1000 km, c'est très dur. On a beau être dans le même pays, mais moi, étant à Marseille, j'ai souvent coutume de le dire, surtout quand on vit dans une ville où il y a malheureusement beaucoup de montées de racisme et de xénophobie, etc., et qu'on stigmatise l'autre. Moi, je suis plus loin de mes racines que certains Algériens ou à vol d'oiseau. Voilà, moi, je suis à 1000 km, certains ils sont à 700 km. Et on les considère comme des étrangers, et moi, on considère comme un bon Français. Alors que moi, je suis beaucoup plus loin de mes racines qu'eux. Donc voilà, c'est
un
pas
bon
si simple.
Un bon Français qui parle pointu, quand même. Hein.
Oui, qui parle très pointu, ça m'est souvent reproché par mes camarades de travail. Mais bon, voilà, c'est ce qui fait la diversité de Marseille, ce qui fait sa beauté, sa richesse, c'est que voilà, on vient un peu de partout. Moi, du nord-ouest de la France, d'autres du sud de l'Afrique, du nord de l'Afrique, et voilà, et c'est ce qui plaît à Marseille. Alors,
donc,
ça a été dur, mais...
Donc tu t'es bien intégré.
Oui, mais après...
Comme les Algériens dont tu parles, finalement.
Bien sûr, parce que moi, je considère que, voilà, je suis chez moi partout, et tout le monde doit être chez lui partout. Moi, si je trouvais que je suis né au Havre, j'aurais pu naître au Sénégal, en Algérie, voilà, il s'est trouvé que j'étais là, donc la planète a... HK, il va le chanter tout à l'heure, je pense, citoyen du monde. Moi, ça me va bien, cette appellation-là. Moi, je me considère un citoyen du monde.
Et aujourd'hui, ton sentiment, c'est quoi ? Juste là, ce soir, qu'est-ce que...
Sentiment de fierté, quoi. Quand je vois mes camarades aujourd'hui avec la patate et le sourire aux lèvres et fier de ce qu'ils ont fait et partager ça avec plein de gens qui viennent ici simplement parce qu'ils ont plaisir à venir en partager avec nous ce moment de joie. Une grande fierté. Voilà, une grande fierté.
Merci beaucoup. Merci Olivier. Et puis, longue vie à la Scopti.
Merci.
C'était, avec les Fralib, la victoire de la générosité et de la fraternité. Deuxième partie. Une émission de Radio Zinzine. Vous pouvez la retrouver, ainsi que sa première partie, sur radiozinzine.org, ainsi que sur le site sgourde.net. Aux interviews, Jean-Jacques et Pierrot. À la prise de son, l'illustration sonore et la réalisation, Pierrot. Musique, Orion de Rodrigo et Gabriella, pour le générique. Le temps des cerises par Les Motivés. La rue qui est à nous de La rue qui est à nous. On lâche rien et citoyens du monde d'HK et les Saltimbanques. Merci aux Fralibiens et Fralibiennes pour leur accueil chaleureux, à Gérard Cazorla et Olivier Leberquier, délégués CGT Fralib, à Gérard Afagar, délégué CGC Fralib, à Thierry Pétavino, secrétaire général de l'Union départementale CGT 13. À bientôt sur les ondes de Radio Zinzine pour d'autres reportages. Ne lâchez rien, salut!
D'hymne guerrier, pas de patrie, pas de président. Je n'ai pas d'autre armée que celle de ceux qui veulent combattre pour l'amour en dépit des lois de l'argent. Je n'ai pas d'homme à exploiter, pas de richesse à créer pour mon compte. Je n'ai pas de territoire à défendre contre ces pauvres gens qui viennent des quatre coins du monde. Fallait crever de faim ici tous ensemble. Soyez les bienvenus.
plutôt mourir que de vivre dans l'abondance, couvert de vêtements quand tellement d'autres sont nus. Oh yo, oh yo yo yo, citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières. Il y a le bon étranger, celui que tu accueilles les bras grands ouverts. Et il y a le mauvais, celui que tu pourchasses dès qu'il a franchi ta frontière. Il y a le bon, celui qui te sera utile. Et il y a le truand, celui que tu ne veux surtout pas voir arriver dans ta ville. Si tu cherches la brute, va là où on parle dollar cash et pétrole brut. Mais ne cherche surtout pas le shérif, je l'ai shooté quand il m'a dit qu'il ne défendait que les riches. Oh, yo.
Citoyen du monde, partisan d'un monde sans frontières.